Bonjour et merci d'être venu à ce dernier cours de l'année, en ce 1er avril. Avant de commencer, je voudrais vous prévenir qu'il y aura un changement pour le séminaire. Le séminaire aura lieu tout à l'heure. Il ne se fera pas en salle 4 comme d'habitude, je le redirai à la fin du cours, mais en salle 1, c'est-à-dire que lorsque vous sortez, lorsque vous retournez vers la cour, vers la grande cour, n'est-ce pas, ça sera à droite, vous irez à droite et ensuite à gauche. C'est la petite salle qui est au fond, à gauche. Enfin, à droite, puis à gauche. Je vous montrerai de toute façon. Alors, comme vous le rappelez peut-être, le point de départ du cours de cette année était un passage du discours de réception du prix Nobel de littérature que Kawabata Yasunadi, le grand écrivain, prononça en 1968 à Stockholm. Un passage qui était très difficile à saisir pour plusieurs raisons. Il y a tout d'abord ce que l'on pourrait appeler sa difficulté intrinsèque, non qu'il s'agisse d'un texte particulièrement abscon, du point de vue de la littérature bouddhique générale, on en voit beaucoup, on lit énormément de textes d'une teneur voisine, et d'ailleurs ceux qui ont lu avec moi une partie du commentaire de Dohan pendant cette année, ils ont certainement retrouvé des choses. Mais un texte ainsi asséné de but en blanc, hors contexte, il paraissait presque exagéré, caricatural même, par la brutalité de son assertion. Il est certain que cette brutalité est dans une certaine mesure voulue par les auteurs du texte cité par Kawabata. Je dis bien les auteurs parce qu'il y a au moins le travail de trois personnes. Il y avait le poète Saigyo, dont ce sont les paroles qui sont rapportées. Ensuite, la biographie, les paroles de Saigyo étaient rapportées par le Myōe, n'est-ce pas, le grand religieux de l'époque de Kamakura. Et puis, ces paroles de Saigyo rapportées par Myōe étaient consignées par Kikai, pas Kukai, cette fois c'est Kikai, n'est-ce pas, qui était l'auteur de la biographie de Myōe du XIIIe siècle. Donc, mais pour les besoins de la brièveté, de la commodité, je parlerai toujours de Saigyo. Saigyo, donc le grand poète de la fin de l'époque de Heian, l'un des plus grands poètes de Waka japonais, qui était en même temps un grand religieux et dont la biographie postérieure, elle aussi, enfin très postérieure et apocryphe même, puisqu'il s'agit plutôt de contes dont il a été pris comme protagoniste, mais date facilement du milieu du XIIIe siècle. Mais évidemment, cette citation de Saigyo dans la biographie de Kikai était prononcée dans un contexte culturel et doctrinal qui en atténuait grandement ce qu'il a d'étonnant à nos yeux maintenant. L'autre difficulté, c'est la raison pour laquelle Kawabata lui-même a choisi cette longue citation, presque en conclusion de son discours, à une place où il apparaît qu'elle a pour rôle d'expliquer tout le développement préliminaire d'un texte qui a pour titre, ne l'oublions pas, alors en japonais, Utsukushi Nihon no Watashi, que je traduirai ici par « La beauté du Japon d'où je proviens ». À la fois la beauté et le Japon. Il ne donne nulle part d'explication directe sur ce choix si étonnant, Kawabata. Et l'on serait bien en peine de trouver même des indices sur son intention profonde, hormis justement ce qui est le plus évident, la tonalité bouddhique qui règne du début à la fin de son discours de réception. La citation de Saigyo ne vient donc pas de façon intempestive, mais placée où elle est, à la toute fin du discours, elle est bien évidemment présentée comme la clé de ce qui précède. Relisons-la rapidement. Je n'ai pas de PowerPoint aujourd'hui, je vous donne simplement la citation, n'est-ce pas que nous. Je l'ai divisée en trois parties, sinon ça serait trop long, impossible de la mettre sur un seul tableau. Donc, le maître de loi Saigyo venait régulièrement dialoguer avec lui, c'est-à-dire avec Myōe, et lui disait « Ma façon de composer les poèmes diffère grandement de l'ordinaire. Les fleurs, le coucou, la lune, la neige, de tout ce que m'inspirent les phénomènes, c'est la vacuité de ces apparences qui me frappe la vue et m'emplit l'ouïe. » Et vous voyez que pour la vacuité de ses apparences, en japonais, c'est arayuru so kore komo narukoto. Komo, n'est-ce pas qu'on pourrait dire kyomo ou kyobo même. Et vous voyez le mot que nous retrouvons dans le texte de Kukai, le mot erroné. Pourtant, les phrases que je compose ne sont-elles pas toutes paroles de vérité ? Minakore shingon ni arazuya. Tout en chantant les fleurs, je ne les pense pas réellement comme fleurs. Tout en célébrant la lune, je ne la pense pas réellement comme lune. Je ne fais ainsi que composer au fil des liens causaux. Vous voyez, en nishitagai, ça vous rappelle certainement quelque chose. Et selon l'inspiration, kyo nishitagai. Quand l'arc-en-ciel se déploie, c'est comme si le vide prenait des couleurs. Donc, c'est koku. Quand le soleil resplendit, c'est comme si le vide devenait manifeste. Et cependant, la vacuité n'est en elle-même ni manifeste ni colorée. De mon côté, en mon cœur semblable à cette vacuité, même s'il se colorie en une variété d'aspects, il n'en reste aucun vestige. Mes poèmes sont la forme véritable de l'ainsi venu. Kono uta sanawachi nyorai no shin no gyotai nari. Et voyez que dans le mot forme, on n'en finirait pas d'analyser même le vocabulaire de ce poème, vous avez à la fois gyo, que nous reverrons tout à l'heure, dans le composé shikigyo, vous saviez, ou gyo shiki, le visible formel, et tai, la substance. C'est à la fois. Là encore, vous avez un composé très intéressant, puisqu'il est formé de deux termes qui se contredisent presque, la katachi, kyo, qui est en principe sans substance, sans taille, et la substance, qui étant primordiale, est sans forme. Et on réunit ici les deux. Donc, ceux d'entre vous qui étaient au premier cours de cette année, se souviennent-ils de leur impression lorsqu'ils lurent ces lignes pour la première fois ? Et surtout, je voudrais faire un sondage, ont-ils l'impression de les comprendre mieux à présent que nous avons lu si minutieusement le traité de Kukai sur les phonèmes, les graphèmes et la réalité ? Shoji Jisogi. Peut-on ne pas percevoir les échos qui se répondent entre les deux textes ? À présent que nous avons lu Kukai, le grand moine, ne nous est-il pas plus facile de comprendre ce que voulait dire Saigyo, le grand poète, et qui était moine lui aussi ? Nous retrouvons d'ailleurs plusieurs termes qui se répètent tels quels dans les deux textes. Il y a bien sûr les paroles de vérité, Shingon, mais aussi, cachées, dérobées dans les artifices de la lecture explicative, dans le Kundoku, nous avons d'autres correspondances singulières. Lorsque Saigyo dit qu'il ne fait que composer au fil des liens causaux, en shitagai, nous retrouvons sous le segment de phrase japonais le composé zui-en, qui nous a occupés tout au long du dernier cours. Zui-en, donc le conditionnel, le conditionné en conséquence ou le conditionné adapté, qui s'oppose à honi ou honen, l'état de nature, ou ce que j'appelle l'état de loi sans E majuscule. Donc, ce zuyen désigne l'activité de celui qui se meut dans le phénoménal, dans le fabriqué ou le constitué, par opposition au monde de la vérité, de la réalité, qui est la forme véritable de l'ainsi venu, terme qui correspond évidemment au naturel honen ou honi de Kukai. Il y en aurait bien d'autres de ces correspondances, mais nous les esquisserons tout à l'heure. Auparavant, je voudrais revenir sur ce que nous devons comprendre du fait que Kawabata ait choisi cette citation, alors qu'il s'adressait à un auditoire dont il savait sans doute très pertinemment qu'il était incapable de la comprendre telle qu'elle. Bon, c'était l'auditoire de Stockholm, n'est-ce pas ? Il parlait, il a bien sûr rédigé son discours en japonais, ça a été traduit en anglais par Seidensticker, grand japonisant s'il en est, et qui n'était pas non plus spécialiste du bouddhisme, et qui a parfois simplifié toutes les nuances des textes bouddhiques cités par Kawabata. On ne peut bien sûr éliminer la possibilité qu'il ne se soit agi que d'une coquetterie d'auteur. Il aurait en ce cas espéré ne pas être compris. Pourquoi pas ? On peut s'imaginer qu'il s'amusait dans une certaine mesure à jouer le mystérieux sage oriental devant un auditoire tout prêt à l'accepter ainsi. Mais l'aurait-il fait du début à la fin de son texte ? Nous pouvons très bien comprendre que la citation à propos du roman de Genji, qu'il fait dans son discours, soit une manière de provocation. Vous vous souvenez peut-être qu'il dit, dans son discours, Kawabata cite, à part lui-même, ne cite pas d'auteurs modernes, ni même du XXe siècle, il cite simplement Akutagawa Ryunosuke, de la fin du XIXe, peut-être tout début du XXe siècle, et tout le reste, tous les autres personnages cités sont des écrivains, des moines, des poètes japonais, dont les plus tardifs sont de l'époque d'Edo, je ne sais même pas, c'est même le XVe siècle, c'est peut-être Ikkyu le dernier, le plus récent, à part Akutagawa Ryunosuke, n'est-ce pas ? Et là, lorsqu'il dit donc que le roman de Genji est le monument de la littérature japonaise et l'un des plus grands romans du monde, il y a certainement une provocation. Mais à l'égard de qui, d'ailleurs, cette provocation ? Certainement pas à l'égard de l'auditoire de Stockholm, qui ne demandait certainement qu'à entendre ce genre de discours. En 1968, comme à présent, le roman de Genji est certainement l'œuvre littéraire japonaise la plus célèbre dans le monde entier. C'est en revanche auprès de ses collègues, lecteurs et auditeurs japonais, que son affirmation a eu le plus de force provocatrice. En une telle année, 1968, qui n'était pas de tout repos au Japon non plus, ignorer délibérément 1000 ans de littérature japonaise pour n'en donner comme chef-d'œuvre un texte que déjà à l'époque fort peu de gens étaient capables de lire dans le texte original, pouvait en effet passer, sinon pour la provocation, du moins pour une facétie. Il n'en va pas de même de la citation de Saigyo. Son potentiel de scandale est somme toute réduit, dans la mesure, encore une fois, où on peut la comprendre. Ce serait d'ailleurs un exercice intéressant d'essayer de voir ce qu'un lecteur moyen japonais, si une telle chose existe, comprendrait de ce texte. Que ce soit par l'allusion aux paroles de vérité, ou bien à la forme véritable de l'ainsi venu, aux allusions au vide et à la réalité, il comprendrait certainement que ce texte a un rapport avec le bouddhisme. Mais comme il arrive souvent justement avec les textes bouddhiques, au Japon et en Chine aussi, le lecteur ne chercherait certainement pas à aller trop loin dans sa compréhension. C'est du bouddhisme, ça ne se comprend pas. Mais encore une fois, qu'allait donc chercher Kawabata dans ce texte ? Et d'abord, où l'a-t-il trouvé ? C'est une question qu'il faudrait se poser aussi. Il est certain que l'écrivain, dans la dernière partie de sa vie, s'est plus spécialement intéressé au bouddhisme. Cet intérêt, comme nous le voyons à la lecture de son discours d'introduction, avait certainement à l'origine des raisons esthétiques, au sens large. Il le dit lui-même, il s'agit de la calligraphie, de l'art du thé, de la poésie, de la peinture. Hormis quelques références au vide ou à l'impermanence des choses, Kawabata ne cherche pas à se lancer dans une réflexion sur la doctrine bouddhique. Cela rend d'autant plus frappant, je le répète, cette citation finale. Je ne pense toujours pas pour l'instant que Kawabata, à la différence par exemple d'un grand écrivain antérieur à lui qui s'appelait Kōda Rohan, 1867-1947, qui, lorsqu'il était fonctionnaire des postes japonaises dans un petit bureau du village du nord-est du pays, avait vécu plusieurs années quasiment en ermite, en se plongeant dans la lecture des écrits taoïstes d'une part, mais aussi dans la lecture systématique de l'intégralité du canon bouddhique, le Daizokyo, que l'abbé d'un vieux temple du voisinage avait mis à sa disposition. Le texte d'où Kawabata tire sa citation, cependant, n'était pas très difficile à trouver. La biographie de Myōe par Kikai n'était peut-être pas encore publiée dans le livre de poche japonais, comme elle le fut à partir de 1981 dans la collection Iwanami Bunko, mais c'était un texte fort connu. On peut même imaginer que Kawabata ne l'ait pas lu en entier et qu'il l'ait découverte simplement, la citation, à l'occasion de lectures sur Saigyo, qui, en tant que l'un des plus grands poètes japonais, n'avait pas manqué d'attirer son attention. J'ai dit tout à l'heure qu'à présent que nous avions lu le traité de Kukai sur phonèmes, graphèmes et réalités, nous pouvions lire cette citation avec un regard neuf. Mais qu'en est-il de Kawabata lui-même ? Avait-il lu Kukai ? Si le traité de Genèse écrit par Kukai sur la convergence des trois doctrines, le Sango Shiiki, dont j'ai parlé aussi, faisait certainement partie des lectures obligatoires d'un japonais cultivé, enfin, en tout cas, on peut l'espérer, il n'en est pas de même du traité sur les phonèmes et graphèmes. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est nous qui tissons un lien entre les deux ouvrages. Absolument rien ne nous dit que Kawabata, lui, aurait établi un tel lien. Si nous ne lisons cette citation que pour elle-même, que par elle-même, sans nous référer à d'autres textes, mais avec une certaine connaissance, disons générale, du bouddhisme, Que pouvons-nous en comprendre? Que pouvons-nous penser qu'un Kawabata en ait compris? L'auteur de ces paroles, Saigyo, est un poète consommé et un bouddhiste accompli. Il est conscient, du moins dans la conscience qu'on rapporte son biographe, d'être parvenu à un niveau de compréhension des choses qui n'est pas celui du vulgaire. Il serait déplacé ici de répondre à l'orgueil du poète médiéval par la morgue du moraliste moderne et de souligner la tranquille impudence de son propos, après tout. Ceci serait une toute autre histoire. Disons à la décharge de Saigyo que ces paroles sont passées par au moins deux intermédiaires avant que de nous parvenir. Donc, pour reprendre son raisonnement, conscient de n'être pas un poète du premier degré, il prend bien soin de se démarquer de ses congénères. Certes, comme eux, il chante le monde phénoménal, les fleurs, le coucou, la lune, la neige. Comme il le dit lui-même, tout ce qui lui frappe la vue et lui emplit l'ouïe, c'est-à-dire tous les objets sensoriels, en fin de compte. L'okujin, les six poussières. Mais en tant que bouddhiste, il sait qu'il ne s'agit que d'apparence vide, vide de nature propre, jisho. Cependant, et malgré la conscience aiguë qu'il a du caractère phénoménal, impermanent, caduque de ces choses, de ces entités, shoho, il sait que ses poèmes ne sont pas des propos spécieux ou utiles, ou futiles, kyōgen kigo, mais qu'il s'agit bel et bien de paroles de vérité. D'où lui vient cette conscience? C'est une conscience d'autant plus paradoxale qu'alors qu'il dit composer des paroles de vérité, il sait qu'en chantant les fleurs, il ne les pense pas réellement, ge-ni, n'est-ce pas, ou jitsuni, que ce ne sont pas des fleurs réelles. Il les pose, ainsi qu'il le dit lui-même, comme le résultat de liens causaux. Son cœur, kokoro, c'est-à-dire sa pensée, shin, est semblable à la vacuité. Il convient de prendre ici vacuité au sens fort, non pas la vacuité phénoménale, la vacuité restreinte, comme on pourrait dire, comme on pourrait parler de la relativité restreinte, qui est la conscience que l'on peut avoir quotidiennement de l'impermanence des choses. Donc cette vacuité cette vacuité phénoménale donc fait que les phénomènes, cette découverte plutôt, fait que les phénomènes ne sont que le produit des conditions, mais la vacuité générale ou finale, celle qui se colorie comme l'arc-en-ciel, c'est-à-dire l'état de nature, l'état de loi, honen. C'est parce que son esprit est vacuité que le poète ne fait plus qu'un avec la réalité ultime, qui n'est autre que l'ainsi venu lui-même. Parce que ses poèmes sont issus de sa pensée, parce qu'ils sont paroles de vérité, ils expriment, ils sont la forme véritable de l'ainsi venu, ce qui signifie que le poète lui-même n'est autre que l'ainsi venu. Comme je l'ai dit lors de la leçon inaugurale, de telles paroles sont la justification du titre lui-même, le beau Japon. Plus exactement, la beauté japonaise dont il est question, c'est le visible tel qu'il est perceptible du point de vue du poète japonais. Et ce visible n'est perceptible que parce qu'il s'exprime en une poésie qui entretient un lien spécial avec lui. Ce lien spécial est la langue japonaise elle-même, l'instrument poétique par excellence, en tout cas le seul qui soit à la disposition du poète japonais. Il est clair que dans la pensée de Kawabata, cette tradition esthétique japonaise est particulière à cause précisément de cela. Les poèmes, aussi futiles qu'ils puissent paraître, ne sont pas de simples jeux de lettrés. Ils ne chantent pas les fleurs de cerisier ou la pleine lune sur la neige, mais sont une expression de la réalité. Cette expression n'est pas dans l'objet exprimé lui-même. On l'aura compris, tout est phénoménal. Le réel, ce n'est pas la lune ni les fleurs, ce sont les paroles qui les décrivent, les shingon. Le réel, c'est donc la langue japonaise elle-même. On va dire, et on aurait peut-être raison de le dire, qu'il ne s'agirait là encore, en quelque sorte, de l'expression exagérée, outrecuidante, d'un nationalisme linguistique irrationnel, qui ne convaincra que ceux qui sont déjà convaincus. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas pour Kawabata. On a bien vu, en effet, dès le XVIIIe siècle au moins, et le 19e, la fin du 18e, avec l'essor des, je pense à Motohori no Ninaga, n'est-ce pas, avec l'essor des études nationales, se dessinait l'idéologie de la supériorité de la langue japonaise sur les autres langues. Les idées concernant le kotodama, l'esprit du langage, l'efficace qui est inhérente au mot japonais, que l'on s'est évertué à faire remonter à l'époque du Manyoshu, c'est-à-dire au milieu du 8e siècle au moins, se retrouve de façon analogue peu ou prou dans toutes sortes d'aires culturelles. Ce n'est pas la même chose. On sait que l'une des illustrations les plus achevées de ce genre de pensée, ce sont les idées qui avaient cours au XVIe siècle dans diverses régions d'Europe. Par exemple, un exemple célèbre étant la démonstration faite par un érudit flamand sur le caractère originel de la langue flamande qui était à l'origine de toutes les langues du monde. On peut voir des analogies doctrinales ou idéologiques avec la pensée du Kotodama. Nous sommes certains que ce n'est pas ce genre d'idée qui sous-tend la vision que Kawabata a de la beauté japonaise, telle qu'elle s'est exprimée dans sa langue. Le simple fait qu'il ait eu recours à cette citation de Saigyo pour la justifier nous empêche d'aller nous fourvoyer dans ce genre d'explication. Saigyo, en effet, ne dit nulle part que la langue japonaise est excellente et l'emporte sur toutes les autres. S'il affirme une quelconque supériorité, ce serait celle de sa propre poésie sur celle de ses autres rivaux. Chez lui, ce n'est pas la distinction entre les langues qui doit être faite, mais la distinction entre les états d'esprit des poètes. La lecture du traité de Kukai nous a donné les clés nécessaires à la compréhension de son propos. Une question se pose d'abord. Pourquoi être allé chercher Kukai, alors que rien, ni chez Saigyo, ni chez Kawabata, n'indiquait que c'était vers lui qu'il fallait orienter nos recherches? La réponse est pourtant simple. Kukai est le premier au Japon avoir consacré une série d'opuscules à la question de la langue. Il faut le répéter au sens le plus large. Chez lui, comme chez la plupart de ceux qui ont traité cette question en Chine et au Japon, langue signifie en même temps écriture. Le signe sonore, le phonème, sho, koe, et le signe écrit, le graphème, moji, monji, ne sont pas distingués chez Kukai, comme chez ses prédécesseurs et ses successeurs, la plupart du temps. Ils peuvent l'être naturellement distingués. Ils le seront même quelquefois au hasard des démonstrations ou pour les besoins de la comparaison. Mais on ne ressent pas le besoin absolu de les séparer. Cela est sans doute dû au fait qu'à l'époque de Kukai, il en ira un peu différemment plus tard, les deux seules langues en présence, donc qui sont dans sa conscience linguistique, étaient notées par des écritures si différentes l'une de l'autre qu'elles en étaient emblématiques. Nous avions d'un côté les kanji, n'est-ce pas ce qu'on appelle les sinogrammes, et de l'autre côté les lettres brahmiques, les lettres indiennes, bonji. Donc d'une part le chinois, noté par les sinogrammes, la langue des lettrés, et de l'autre côté le sanskrit, la langue des bouddhas. Dans sa trilogie, je parle bien sûr du point de vue d'un japonais de son époque qui n'était pas au fait des différences dialectales, si l'on peut dire, qui régnaient en Inde. Dans sa trilogie, Kukai va examiner la façon dont les lettres indiennes expriment la réalité du monde, car c'est bien là le centre de la question. Après son voyage en Chine décisif, Kukai est revenu porteur d'une nouvelle révélation, ou au moins d'une nouvelle doctrine qui donne un regard nouveau sur les enseignements du Bouddha. Il ne s'agit plus seulement d'une doctrine de l'ascèse, d'un enseignement des pratiques, d'un système quasiment philosophique d'analyse du monde, analyse dont le but ultime est d'en démontrer l'inanité, l'absence de nature propre. Il ne s'agit pas non plus, bien que nous en soyons plus proches, avec lui d'une telle vision du monde, de se contenter de démontrer que tout le déploiement du phénoménal se ramène en dernière analyse à la production d'un esprit ou d'une pensée ontologiquement primordiale. Ce sont les doctrines de l'école Hosso, n'est-ce pas, du Hosso-shu. Il apporte une pratique nouvelle, fondée sur, si je puis me permettre de simplifier ainsi les choses pour des besoins de brièveté, fondée sur la certitude que les niveaux ultimes de l'être, que l'univers intime où le Bouddha suprême savoure tout seul sa propre nature éternellement réalisée et libérée, se tiennent dans une relation sans solution de continuité, c'est-à-dire sans rupture, avec tous les niveaux inférieurs, jusqu'au bas de l'échelle des existants. Cette continuité entre tous les niveaux de l'être est marquée par les graphèmes, ces lettres qui sont constituées de tous les signes différenciateurs, et pas seulement les lettres écrites, n'est-ce pas, pas seulement les monji, bien qu'il emploie le mot monji. Donc tous les signes différenciateurs, les marques qui permettent à la conscience de reconnaître et de discerner les phénomènes. Ces signes sont bien sûr adaptés à chacun des niveaux où ils sont perçus. Et ils sont perçus selon la disposition des consciences des êtres plus ou moins dégradées, selon les niveaux où ils demeurent. Mais ces signes ne sont pas arbitraires. Non seulement ils ont leur propre cohérence interne, adaptée à chaque niveau, ils y jouent leur rôle, mais en plus, ils ont ce que l'on pourrait appeler un référent absolu, à savoir les lettres indiennes, les bonji, qui, bien qu'elles soient propagées dans le monde phénoménal et manipulées par des êtres faillibles, en proie à l'ignorance, n'en sont pas moins l'expression directe de la réalité, les éléments dont sont constitués les mandalas qui décrivent adéquatement le plan de loi. Par une confusion peut-être sciemment entretenue par Kukai lui-même, comme nous l'avons vu, les mots mandala et mantra, prononcé à la japonaise mantora, n'est-ce pas, mandala et mantora, sont assimilés. Nous avons donc non seulement d'un côté les mandalas, dont les figures de Bouddha et de Bodhisattva peuvent être remplacées par des lettres indiennes, chaque lettre ou syllabe exprimant un personnage bouddhique, mais aussi les mantras, ces formules condensant en leur son une efficacité salvifique incomparable parce qu'elles sont notées en leur réalité même. En cherchant à démontrer dans son opuscule sur les phonèmes, graphèmes et réalités la base doctrinale de cette efficacité quasiment magique des mantras, Kukai laisse le champ libre à ses successeurs pour faire le lien avec l'écriture japonaise, question qu'il n'aborde nulle part lui-même dans son œuvre. Mais la description qu'il fait des phonèmes et graphèmes, tels qu'ils se déploient à travers tous les niveaux de lettres, ne pouvait qu'être complétée par ces épigones. Et nous avons vu les réflexions de ces commentateurs, n'est-ce pas, qui, dans deux passages très significatifs, font bien le lien entre la lettre, enfin, entre le texte même de Kukai et la langue japonaise. Rappelons les grandes lignes de l'opuscule de Kukai. Il est fort probable que ce texte, comme nombre de textes bouddhiques des traditions chinoises et japonaises, n'ait pas été tout d'abord écrit, mais ait fait l'objet d'un exposé oral devant des disciples ou des auditeurs. Cela explique sans doute le fait qu'il soit resté, à notre sens, inachevé, comme j'en ai parlé la dernière fois. Devant être exposé en une certaine période de temps, que ce soit à l'occasion d'une cérémonie ou d'une retraite, une cérémonie durant sur plusieurs jours, n'est-ce pas, il a pu être interrompu lorsque la limite temporelle a été atteinte, ce qui expliquerait sa fin abrupte, mais aussi le caractère non lacunaire du texte en même temps. Il est parfait jusqu'à la rupture finale, l'interruption finale. Quelle qu'en soit la raison, car elles peuvent être multiples, nous n'avons pas affaire à une démonstration solidement établie. Il reste quand même que c'est le seul texte, nous le répétons, qui, à une date si ancienne, pose les bases d'une réflexion sur la langue japonaise, non en elle-même, mais sur son utilisation et sa portée pratique, c'est-à-dire pertinente pour le salut bouddhique. Elle pose les bases, n'est-ce pas, mais elle ne le traite pas. Comme nous l'avons déjà dit, Kukai ne cherche pas à faire une œuvre originale. Comme l'aurait dit Confucius avant lui, Nobete Tsukurazu, il transmet mais n'invente pas. Il se fonde sur les enseignements qu'il est allé chercher en Chine. Ces enseignements appartiennent à l'école ésotérique, Shingonshu, Mikkyo. Ils étaient d'importation récente à l'époque, en Chine même, fondée sur la traduction de sutras encore inconnus et de doctrines nouvelles nées en Inde, sans doute peu de temps avant leur transmission en Chine. Kukai nous offre donc une mosaïque de citations, mais c'est une mosaïque qu'il met en ordre lui-même. Les fragments qu'il choisit, les orientations qu'il leur donne, finissent par former une œuvre nouvelle. Comme je vous l'ai déjà dit, il n'est pas tout seul. D'abord, ce n'est pas la seule de ses œuvres qui soit composée ainsi. Donc, le Juju Shinlon, n'est-ce pas, qui est le grand œuvre qu'il avait proposé à la cour impériale, est aussi un fragment de mosaïque. De centons, donc un recueil de citations. Plus tard, l'un des plus grands traités bouddhiques japonais, qui est l'Ojo Yoshu de Genshin, n'est-ce pas, de la fin du Xe siècle, est aussi entièrement composé de citations chinoises, mais qui sont remaniées dans un but bien précis. On pourrait aussi, je vous ai parlé de Gishin, n'est-ce pas, qui était le contemporain de Kukai, qui est allé avec lui en Chine en accompagnant Saicho. Lorsque Kukai donnait à la cour son Juju Shinlong, Gishin donnait un traité qui était de même nature, puisqu'il présentait le résumé des doctrines de son école. Et là aussi, il est essentiellement composé de citations d'un auteur chinois, enfin de deux auteurs chinois. Donc les Japonais ne s'y sont pas trompés sur l'importance de ce texte, qui ont produit tout au long de leur histoire une quantité impressionnante de commentaires sur un texte qui est quand même très court, puisque nous avons pu le lire une dizaine d'heures, n'est-ce pas ? Il est possible de le lire d'au moins deux manières différentes, soit comme une œuvre bouddhique, comme manuel de lecture bouddhique du monde, soit comme introduction à la notion même d'écriture, voire de langue. C'est la lecture moderne qu'on en fait maintenant au Japon. Une introduction qui situerait cette activité éminemment humaine dans une plus large perspective où ce serait la pensée elle-même, la pensée primordiale, qui se donnerait en lecture dans tous les niveaux du monde. Dès les premières phrases, Kukai, qui n'entend pas ménager son lecteur, nous indique la teneur de son opuscule et de sa pensée sur le langage en général. Selon lui, l'ainsi venu qui prêche la loi a toujours recours aux signes d'écriture, aux graphèmes. Ces graphèmes, puisqu'ils sont destinés aux êtres de notre monde, ont comme lieu naturel d'existence les six poussières, c'est-à-dire les six domaines sensoriels sur lesquels s'exercent nos sens. Cela est facilement compréhensible. Mais Kukai ajoute que ces six poussières sont la substance des graphèmes. Comme nous avons tout à l'heure Gyotai, n'est-ce pas, nous avons aussi Moji no Tai. Et non seulement cela, mais aussi qu'elles ont pour fondement les trois mystères du Bouddha en corps de loi, Hoshin Sammitsu. Ces trois mystères, Shinkui, vous vous en souvenez, donc du corps, de la parole et de l'esprit, ces trois mystères étant consubstantiels au Bouddha, sont permanents, éternels et coextensifs au plan de loi. C'est-à-dire que leur demeure, leur lieu d'action, est dans une dimension qui dépasse de loin notre monde. Mais dans le même temps, le Bouddha en corps de loi, Mahavairochana, le grand solaire, Dainichi Nyorai, qui est le fondement ontologique de l'univers, se répartit entre ses cinq sagesses et ses quatre corps, Gochi Shishin. On pourrait s'attendre en toute bonne logique à ce que les quatre corps soient en quelque sorte envoyés à l'extérieur, ce qui est très grosso modo la teneur des doctrines exotériques. Donc ils sont envoyés à l'extérieur, qu'ils émanent vers le monde phénoménal pour ramener les êtres à la réalité du plan de loi. Mais ce n'est pas ainsi que s'exprime Kukai. Il nous dit dès le commencement que ces cinq sagesses et quatre corps comportent en eux-mêmes donc, les dix niveaux d'existence en leur totalité. Les niveaux où nous sommes, puisqu'il comprend aussi les six voies, n'est-ce pas ? Dès le début, nous sommes prévenus de ce que les rapports naturels, de bon sens, pour ainsi dire, entre extérieur et intérieur, entre Bouddha et être, ne sont pas comme le perçoivent nos sens et notre raison. C'est l'ignorance qui nous empêche de considérer tels qu'ils sont les graphèmes qui exposent la réalité du corps de loi. Mais l'adjuvance, kaji, des Bouddhas et des Bodhisattvas qui se manifestent notamment par les affinités créées, les haines, à l'aide des lettres brahmiques, peut aider les êtres à parvenir à la compréhension. Le dogme traité par Kukai est triple. Il s'agit des phonèmes, des graphèmes et de l'aspect réel, jisso, donc sho, ji, jisso, chacun correspondant à l'un des trois mystères, shin, ku, i. Comme les trois mystères, qu'ils sont en réalité. Ils sont indissociables les uns des autres. Mais, et bien que Kukai ne le dise pas explicitement, c'est le troisième terme, l'aspect réel, qui unifie les deux autres, et lui-même, en cette indissociabilité, sur laquelle l'accent est mis à plusieurs reprises. J'attire votre attention sur le fait aussi, puisque c'est important pour la lecture, que Jisso... Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, en réalité, toute cette description des moji, n'est-ce pas, des monji, c'est-à-dire des graphèmes du visible, qui est la dernière partie, disons, et la plus grande partie du traité de Kukai, est une description des sceaux, n'est-ce pas, c'est-à-dire des marques de reconnaissance. Ce n'est pas dit explicitement, mais tout lecteur qui connaît un peu les doctrines bouddhiques, qui le lit, comprend bien que Kukai, à travers sa description des couleurs, des éléments, de l'assemblage des couleurs, et dans les trois niveaux du visible, n'est-ce pas, dont je vous rappellerai tout à l'heure, ce sont les sceaux qui sont concernés. Ces sceaux sont forcément impermanents, caducs, relatifs. Ils sont du domaine du provisoire. Et jisso, justement, est une contradiction dans les termes, puisque vous avez d'un côté le réel et de l'autre côté le provisoire. Et cet aspect réel, c'est pourquoi je tiens à traduire jisso, non pas seulement par réalité, mais par aspect réel, puisque même en français, l'aspect, c'est ce qui est extérieur, la réalité, c'est ce qui est fondamental. Donc, vous voyez que si on peut regretter que le Jisso ne soit pas suffisamment traité par Kukai, il l'est implicitement dans la mesure où il nous dit que toutes ces marques, donc Sō, qu'on pourrait traduire par marque distinctive, caractéristique, signe de reconnaissance. C'est par les Sō que vous pouvez reconnaître telle ou telle chose. N'oubliez pas d'ailleurs que le mot Sō, dans le vocabulaire commun japonais, c'est par exemple les teso, n'est-ce pas, les lignes de la main, ce sont des choses comme ça, des signes qui permettent une interprétation. Et il y a un très célèbre proverbe chinois qui décrit les personnages capables de reconnaître les grands hommes, n'est-ce pas. Le signe pour reconnaître, distinguer les signes des grands hommes, c'est le verbe so, enfin so pris comme verbe. Donc le mot des so est implicitement compris dans là où il n'y a pas jisso, en quelque sorte. On peut comprendre comme cela ce texte. Alors c'est malheureusement ce troisième terme de jisso qui est le moins bien traité dans l'ouvrage. Bien que nous puissions avoir une idée de ce qu'il est, à la lecture de la strophe que Kukai nous donne pour résumer leur rapport entre ces trois dogmes, n'est-ce pas ? Je vous répète cette petite strophe. Les cinq éléments ont tous résonance. Mina hibiki, kotogotoku hibiki adi. Les dix plans d'existence sont tous pourvus de leur langage. C'est donc gongo gusu. Et les six poussières sont toutes tant qu'elles sont signes d'écriture, graphème. Et le corps de loi est l'aspect réel. Voilà. Donc, n'est-ce pas, le hoshin, c'est le jisso. L'aspect réel n'est donc autre que l'aspect ultime des graphèmes et des phonèmes tels qu'ils sont dans le plan de loi. Phonèmes et graphèmes peuvent s'aborder du point de vue exotérique ou ésotérique. Du point de vue exotérique, ils sont tous les signes qui s'offrent au sens dans les domaines inférieurs de l'être. Du point de vue ésotérique, ce sont les lettres brahmiques qui transmettent leur vrai sens. La situation est ainsi résumée. Si on les explique en fonction de leur... Je cite Kukai ici. Si on les explique en fonction de leur plus ou moins grande profondeur verticale, alors les graphèmes des neuf plans d'existence sont erronés. Mot, c'est le mot que nous avons ici, n'est-ce pas, que nous avons dans la citation de Saigyo. Et les signes d'écriture du plan d'existence de Bouddha sont vrais et réels, Shinjitsu. Les graphèmes comme les phonèmes véhiculent des dénominations, myo ou myoji, le myo de Namae, qui sont forcément provisoires, kemyo, dans les neuf plans d'existence inférieurs. Ce terme de kemyo est important, je l'ai déjà donné à plusieurs reprises. Et n'oubliez pas qu'il se lit kana aussi en lecture explicative. C'est évidemment, ça a une certaine importance. Il n'est pas précisé quelle peut être la nature de ces dénominations lorsque les graphèmes concernent des entités non humaines, comme les fourmis par exemple. Il nous est loisible de comprendre qu'il s'agit de tout signe ou accident qui occasionne une action ou un changement d'action lorsqu'il est perçu par une entité vivante, quelle qu'elle soit. La dénomination sont en quelque sorte des signes, des sceaux, mais qui peuvent être, d'une façon ou d'une autre, transformés en langue, n'est-ce pas, exprimés en langage, quel que soit le langage de la créature qui le perçoit. L'adepte de la pratique ésotérique, lui, a un immense avantage sur celui qui reste à la porte du temple, pour ainsi dire. C'est qu'il peut s'aventurer dans le domaine réservé de l'exégèse ésotérique. Je cite encore Kukai. Si l'on se livre à une exégèse ésotérique, pour chaque syllabe, pour chaque nom, pour chaque phrase, chacun est susceptible de comporter une infinité de sens et de bienfaits. Que les Bouddhas et Bodhisattvas suscitent une nuée de corps innombrables, exposant en permanence pendant les trois temps le sens de chaque caractère pris un à un, ils ne sauraient pas même en épuiser les possibilités. Que dire alors du profane ? C'est donc l'infinité des sens qui marque bien la perception vraie que l'on peut avoir de ces signes. C'est seulement pour qui a pu pénétrer le mystère des lettres brahmiques que les vrais sens s'ouvrent. La lettre A, nous l'avons vu, n'est-ce pas, et les autres sont donc les appellations secrètes de chacune des dénominations de l'ainsi venu en corps de loi, nous dit Kukai. Mais cela est impossible pour celui qui reste dans son plan d'existence, sans chercher à le dépasser, car les graphèmes se dégradent au fur et à mesure, non pas en eux-mêmes, mais en raison des facultés qui les perçoivent. Je poursuis la citation. Et ainsi de suite, jusqu'aux dieux, dragons et démons, qui sont aussi pourvus de ces dénominations. Le fondement des dénominations, c'est le corps de loi qui est à leur source. Elles s'en écoulent et, évoluant peu à peu, ne deviennent plus que les paroles qui se propagent dans le monde. Si l'on prend en compte leur sens réel, elles ont alors nom parole de vérité. Si l'on ne connaît pas leur source, elles ont nom discours erroné. Les conséquences sur les êtres humains, parmi les 9 autres niveaux d'existence, sont évidentes. Je cite encore, « Les discours erronés, c'est subir la peine dans la longue nuit des temps. Les paroles de vérité, c'est extirper la peine et donner la félicité. Les paroles qui se propagent dans le monde, ce sont les kemyo, les dénominations provisoires, qui sont les seules que nous puissions vraiment déchiffrer à notre niveau d'existence. » Bien que les graphèmes concernent les 6 domaines sensoriels, la plus grande partie du développement de Kukai est consacrée au premier de ces domaines et au plus important pour la culture écrite sino-japonaise, et peut-être pour les êtres humains en général d'ailleurs, le domaine du visible, shiki, terme dont nous avons vu l'ambiguïté fondamentale, fondée sur l'histoire du vocabulaire à la fois en Inde, en Chine et au Japon. C'est le visible d'une part, mais aussi la couleur, ido, et enfin tout ce qui provoque l'attrait sensuel et plus spécialement sexuel. Les commentateurs, conscients de l'absence des autres domaines sensoriels, résolvent la difficulté en comptant sur l'intelligence du lecteur. Il lui suffira d'appliquer le même raisonnement au reste, c'est-à-dire aux 5 autres poussières. Et il est vrai que la partie sur le visible nous donne déjà une assez bonne idée de ce que pense Kukai. Comme les cours qui concernent cette dernière partie doivent être encore assez frais dans les mémoires, je ne m'efforcerai que d'en redire l'essentiel. Je craindrais de lasser en rappelant la triple distinction qui est faite dans le visible. Il y a le manifeste, kenshiki, arawasu, le formel, gyoshiki, comme avec katachi ici, et le constitué, zoshiki, tsukurareru, n'est-ce pas, ou shozoshiki. Triple distinction qui correspond à l'organisation de plus en plus complexe des entités perçues par l'œil. On se rappelle que dans sa description du visible, Kukai ne parle presque pas des lettres proprement dites à propos des graphèmes, mais qu'il évoque la variété de l'animé et de l'inanimé, comme le graphème du monde, puis les brocarts et les broderies, les soieries et les tissus. Nous avons vu aussi la subtile et intrigante affirmation de l'intercommunicabilité entre animé et inanimé, classée dans les 2 séries de rétributions directes et indirectes, affirmation qui se comprend cependant, bien qu'elle se conçoive plus difficilement, une fois que l'on a pris conscience du fait que l'inanimé, le lieu où demeure l'animé, est partie intégrante de la pensée du Bouddha universel Mahavairochana, que les champs de Bouddha, Kokudo, n'est-ce pas, Bukkokudo, ces domaines presque métaphysiques et en tout cas métamorphiques, sont certes produits de la pensée des éveillés, mais qu'ils sont aussi, tels qu'ils sont perçus par les êtres recouverts de l'ignorance, la sphère de notre activité phénoménale. Pour résumer, la lisibilité du monde ou des mondes est assurée par le fait que, par-delà la caducité apparente des graphèmes et des phonèmes, ainsi que des dénominations qu'ils véhiculent, ils sont soutenus en leur ultime dimension par les lettres brahmiques, éléments consubstantiels au Bouddha, partie intégrante de leur activité mystérieuse et support de l'aspect réel. Nous voyons alors beaucoup plus clairement, à travers ce détour par l'opuscule de Kukai, ce que Saigyo voulait dire. Le poète bouddhiste, le moine poète qui célèbre la nature à travers les thèmes les plus traditionnels, répandus au point qu'ils en seraient des clichés, va au-delà des apparences. S'il s'en tenait à la surface des choses, il ne serait qu'un propagateur de l'ignorance, ne répandrait dans le monde que des propos erronés. Mais il est certain, pour sa part, que ses poèmes sont des paroles de vérité, des shingons, donc les mantras mandala dont parle Kukai. Cette certitude se fonde sur l'assurance de ce que sa propre pensée s'est libérée de sa contingence ontologique pour communiquer avec la véritable vacuité qui est la réalité du corps de loi. C'est pour cela qu'il peut dire avec confiance que ses poèmes, étant des paroles de vérité, sont la forme véritable de l'ainsi venu. Cette reconnaissance du caractère non erroné des graphèmes constitués par les lettres des poèmes japonais est la mise en évidence de leur nature absolue, de leur nature de l'être brahmique. Ce sont les mêmes signes, ainsi que Kukai le laisse entendre clairement à plusieurs reprises. Mais leur reconnaissance se fait de façon erronée ou exacte, éveillée, selon les facultés du lecteur, qui est ici le poète. Nous avons vu tout au long de l'épuscule de Kukai que l'acte de lecture des graphèmes est aussi un acte esthétique. Sa mention des brocarts et des broderies parmi les graphèmes du visible le démontre bien. L'acte de lecture, la poésie, l'esthétique sont intimement liés entre eux. Nous comprenons alors mieux pourquoi Kawabata a choisi comme sommet de son discours cette citation de Saigyo, bien qu'elle soit probablement apocryphe, c'est une autre histoire. Le moine poète associait étroitement, essentiellement, la contemplation de la nature à la composition poétique, ce qui n'étonnera personne nulle part dans le monde, mais faisait aussi de ses poèmes des paroles de vérité, qui ne sont autres que l'expression même du Bouddha en corps de loi. Ainsi que nous l'avons vu, tout graphème, de tout niveau d'existence, est susceptible d'être élevé à cette dimension suprême. Il ne s'agit pas uniquement de la langue japonaise, mais de toute langue humaine et de tout mode de communication non humain, voire inanimé, puisque nous avons vu que la distinction entre animé et inanimé était réversible. C'est bien évidemment l'origine des doctrines sur l'éveil de l'inanimé, auxquelles j'ai fait plusieurs fois allusion, et qui se retrouvent constamment dans la poésie bouddhique médiévale. Il se trouve simplement que c'est au Japon que cette idée a été poussée à son paroxysme, encore que l'on trouverait dans plusieurs traditions anciennes des idées analogues. Et à ce propos, je voudrais utiliser les quelques minutes qui nous restent pour faire un saut géographique, pas tellement temporel, mais surtout géographique, parce que, comme vous le voyez, ces idées de Kukai sont fondées entièrement sur des idées indiennes qui ont transité par la Chine, qui ont été considérablement remodelées par la traduction, certes, bien que les traductions, nous avons vu pour la question des six composés nominaux, n'est-ce pas, des six formes de composés nominaux, ces traductions sont assez fidèles, mais évidemment, dans un univers linguistique tout à fait différent, les référents sont différents et les Chinois, puis les Japonais, les ont adaptés à leur propre univers linguistique. C'est cette mystique de la lettre, des lettres, était bien sûr d'origine indienne. Ce sont des choses qui sont assez bien connues, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à l'autre bout de l'Eurasie, dans le monde méditerranéen, j'ai fait très brièvement allusion au début du cours, nous avions aussi une pensée, une réflexion religieuse sur le sens des lettres de l'alphabet, qui nous donne parfois des analogies très troublantes avec ce qui se trouve non seulement en Inde, en Chine, mais même dans certaines expressions de Kukai. Je voudrais vous donner un exemple pour finir, puisque j'avais mon intention primordiale lorsque j'ai commencé ces cours au Collège de France aurait été de faire du 13e cours une sorte de cours de synthèse, non seulement sur la question du cours de l'année, mais l'étendre au niveau général de la réflexion sur la langue. Je voudrais quand même vous lire quelques extraits d'un texte très intéressant qui s'appelle « Le mystère des lettres grecques », qui a été conservé largement dans sa version en langue copte, n'est-ce pas ? Le copte, c'est la langue des chrétiens égyptiens, et pas seulement des chrétiens, d'ailleurs des gnostiques égyptiens, et nous avons aussi des textes manichéens en copte. Et ce texte a été connu pendant plus d'un siècle dans sa version copte. La version grecque est maintenant connue. Elle a fait l'objet d'une étude par une spécialiste allemande, Cordula Bandt. Mais ce que je vais vous donner ici, c'est la traduction qui a été donnée du texte copte dans une série de publications de la fin du 19e siècle. Alors évidemment, il y aura des changements entre le texte copte et le texte grec, mais ce n'est pas important, n'est-ce pas ? Ce qui est important, c'est de voir que ce genre de réflexion existait dans des milieux monastiques, à la fin, dans les déserts de l'Égypte, autour du 5e siècle, sans doute pour cette version copte, peut-être un peu plus récente pour la version grecque. Et c'est fondé justement, c'est là que j'ai fait allusion à plusieurs reprises, c'est fondé sur les lettres. Et vous savez qu'en grec, les lettres de l'alphabet sont dites stoikeion, pluriel stoikeia. Ici, d'ailleurs, le terme qui est utilisé est légèrement différent. Ce n'est pas stoikeion, c'est stikos. Enfin, c'est de même étymologie, comme vous le voyez bien. Et comme je vous le rappelle, stoikeion veut dire aussi les éléments du monde. Ce sont à la fois les lettres et les éléments constitutifs de la réalité. Ça voulait d'abord dire certainement l'élément, enfin, ou en tout cas partie d'un tout, puis c'est devenu en grec spécialisé dans le sens de l'être. Mais ce qui est très amusant, c'est que le mot latin, enfin amusant, je ne sais pas, mais c'est qui est intéressant, le mot latin elementum, c'est pas dont nous tirons notre mot élément, a une étymologie un peu mystérieuse, et une étymologie qui a été suggérée à partir du 19e siècle par le fameux Diels, n'est-ce pas celui qui avait publié les fragments des philosophes pré-socratiques, c'était que c'était la déformation du mot éléphant, ça fait un peu sketch, vous me direz, mais elephantum, n'est-ce pas, du latin populaire elephantum, mais ce mot élément ne venait pas directement du grec, mais serait passé par une déformation étrusque. Alors, quel est le rapport entre éléphant et élément, me direz-vous ? Eh bien, c'est que justement, à l'origine, en latin, le mot élément ne désignait pas les éléments constitutifs du monde, mais précisément les lettres. C'est-à-dire, éléphant veut dire en ivoire, n'est-ce pas ? C'était des lettres d'ivoire que l'on utilisait pour l'apprentissage. Et donc, ces lettres sculptées ont pris le nom d'origine gréco-étrusque d'élément. Puis ensuite, on reprit le terme général d'éléments constitutifs du monde. Vous voyez que pour le latin, la relation est inversée. Donc, cette fois, ce sont les lettres même, les lettres d'écriture même, qui sont à la base des éléments du monde, ce qui rejoint ces spéculations de l'école ésotérique. Mais je vais vous donner ici quelques passages qui sont très, très intéressants. Vous allez voir que je ne sais pas si c'est gnostique ou chrétien. La phraséologie est tout entière chrétienne, mais ce qui est derrière, c'est bien sûr un composé de doctrines, certainement d'origine juive aussi, puisque vous allez voir, nous n'aurons pas le temps de le voir, mais bien que ça parte de l'alphabet grec, ce qui est traité, ce sont les 22 lettres. Donc c'est les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Mais je vais d'abord vous donner le texte pour que vous voyez, vous rendez compte de l'évolution de cette pensée de l'autre côté du monde. Voici que le maître, qui n'a pas besoin d'enseignement, nous a instruits au sujet de ce mystère, caché jusqu'à cet âge, des lettres de l'alphabet. On donne à ces lettres le nom d'éléments, stikos. Non pas parce qu'elles ne sont elles-mêmes composées d'aucun élément, comme l'ont pensé les sages de la Grèce dans leur vanité, loin de là, mais parce que dans leur tracé se trouve figurée la forme des éléments du monde créé. Alors ici, c'est une sorte de résumé de ce qu'il va dire, donc il ne donne pas les lettres, puisque ça va être le contenu de son traité, mais il nous donne un aperçu de ce qu'il va dire. L'une de ces lettres renferme l'image du ciel et de la terre. Une autre est écrite pour figurer la terre et le ciel. Une autre pour figurer la terre et l'eau. Une autre pour représenter les abîmes et les ténèbres. Une autre pour représenter le vent et l'eau. Une autre symbolise la lumière. Une autre figure le firmament du ciel. Une autre fait connaître la séparation des eaux supérieures et des eaux inférieures. Une autre figure la formation de la terre et le rassemblement des eaux en un même endroit. C'est une première partie. Et ensuite, une autre, de nouveau, est la figure des plantes. Une autre est la figure des arbres fruitiers. Une autre représente la lumière des astres. Dans une autre, on trouve le signe du soleil et de la lune. Une autre, de nouveau, est l'image de leur place dans le ciel. C'est ce que nous allons montrer aussitôt par la volonté de Dieu, d'après ce que nous avons vu et entendu par l'intervention de Dieu lui-même. Ce qui est très intéressant ici, puisque ça concerne aussi l'histoire religieuse, ces lettres grecques ne sont pas chrétiennes ni gnostiques, n'est-ce pas ? Donc elles sont transmises au-delà de la révélation, elles sont intimement liées à l'ordre du monde. Voici ce mystère. Dieu a voulu, dans sa providence, se servir de l'écriture des lettres grecques avant l'idolâtrie des peuples, pour les forcer, malgré eux, à se soumettre à son culte et à en faire la confession. C'est-à-dire que les Grecs, utilisant l'alphabet grec, véhiculent l'enseignement primordial du Dieu, n'est-ce pas, qui, sans le savoir et même malgré eux. Car le grec, l'athée et l'idolâtre, lorsqu'il trace de sa main la figure de ses lettres, même sans le vouloir et sans y consentir, reconnaît et écrit de fait que le monde n'existe pas indépendamment d'un Dieu et d'un Créateur, comme l'ont pensé et prétendu les athées de la Grèce, mais que Dieu existe et qu'il est dès le principe auteur du ciel et de la terre et de la mer et de toutes les créatures visibles et invisibles, que la terre était invisible et informe, etc. etc. Dans cet alphabet, chose qu'on a considérée comme peu importante, se trouvait le mystère caché depuis le commencement du monde. Le nombre dont il renferme la figure nous enseigne la descente de Dieu, le Verbe, du ciel sur la terre, ainsi que le temps où il viendrait jusqu'à nous et la fondation de son Église. Il s'agit de rappeler en outre, et là il rappelle les dogmes chrétiens, qu'il a souffert pour notre salut sur la croix, etc. Et alors là nous retrouvons presque le Zui-en, le Honen, n'est-ce pas, la vérité primordiale non créée, Hompusho, non créante, et le En-Nishtagaou, le Zui-en de la descente dans le phénoménal. Ce trésor renfermé dans chacune des lettres nous enseigne que le Christ est une chose double, à savoir Dieu et homme à la fois, étant l'un et l'autre, qu'il est vivant et vivifiant, qu'il est bon, qu'il est le Seigneur, etc. etc. Donc, vous voyez que cet alphabet peut être lu à deux dimensions, dans la dimension du Dieu d'un côté, du Dieu transcendant, et de l'autre côté, du Christ comme, je dis simplement pour faire une analogie, n'est-ce pas, ne cherchez pas à me faire dire ce que je n'ai pas, mais du Christ comme une sorte de bodhisattva qui serait dans notre univers, une émanation donc du Dieu primordial. Nous avons tout mutatis mutandis, n'est-ce pas, en tenant bien compte des différences entre les deux, des choses très voisines, et surtout cette idée selon laquelle l'alphabet grec propage dans le monde une vérité primordiale à l'insu même des êtres qui l'utilisent, parce que justement, étant dans la pensée erronée dont nous parlions tout à l'heure, ils n'ont pas encore acquis la sagesse de le lire véritablement tel qu'il est. C'est cette idée donc de la double, au moins la double dimension de l'alphabet, sachant bien qu'il est à l'origine divin et donc porteur en lui-même intrinsèquement de vérité, nous rappelle tout à fait la pensée de Kukai. On en trouverait aussi beaucoup d'exemples dans d'autres civilisations. On pense bien sûr à la Kabbale, mais ici ce n'est pas le cas, ce n'est pas le moment d'en parler. Je vous ai parlé du texte d'un Français qui a traduit il y a déjà plusieurs années en ce petit traité de Kukai, où il fait lui-même une comparaison avec les idées de la mystique musulmane sur la science des lettres, n'est-ce pas ? Là aussi, il y a certainement des analogies qui sont évidentes. Est-ce que c'est une transmission historique ? Pour ma part, je serais très enclin à le croire, n'est-ce pas ? Entre l'Inde, en tout cas, et le bassin méditerranéen, il y a eu beaucoup de contacts. Nous en avons des preuves un peu partout. Vous connaissez tous cette fameuse petite statuette de Lakshmi, la divinité indienne qui a été retrouvée dans les ruines de Pompéi. Il n'y avait pas de raison que certaines idées ne passent pas en même temps que les statuettes. En tout cas, je voulais finir ce cours sur cette sortie hors de la sphère de nos écritures, qui nous donne déjà beaucoup de matière à réflexion, mais pour montrer que malgré tout, nous avons ici un phénomène qui dépasse de loin les relations entre le chinois et le japonais. Je vous remercie de votre patience tout au long de ces 13 cours. Ce n'était pas le texte le plus facile que nous avons étudié et que nous étudierons encore. Je ferai moins d'excursions à l'avenir dans ces textes de pur dogmatique, mais je vous remercie de votre patience. Voilà.